Monsieur Jean-Baptiste et bonjour mes très chers auditeurs. C'est avec un réel plaisir pour nous, l'atelier Web Radio, d'interviewer un grand réalisateur et comédien comme vous de notre île, la Martinique. Nous sommes très honorés et très heureux de pouvoir en savoir plus sur vous-même et sur le monde du cinéma. Vous présenter à nos chers auditeurs.
Eh bien, bonjour, je suis très heureux et très fier d'être avec vous. J'ai eu la chance de vous entendre ce matin à Martinique Première. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir parce que, voilà, j'ai autant le trac d'être interviewé par vous que si j'étais interviewé par des grands professionnels. Donc, merci de m'accueillir, ça me touche beaucoup. Alors, moi, je suis Lucien Jean-Baptiste, je suis né à la Martinique, à l'hôpital du Lamantin, en 1964. Donc, je vous laisse faire les calculs sur l'âge que j'ai. Et je suis parti en France à l'âge de 3 ans. Donc j'ai découvert la France hexagonale, ce qu'on appelle la métropole, à l'âge de 3 ans. J'ai découvert le froid, plein de choses sur la différence, voilà. On aura le temps d'en parler, de développer tout ça. J'ai fait des petites études tranquilles, j'ai un BTS de pub, et puis après avoir travaillé 10 ans dans le merchandising, ce sont les produits dérivés, les t-shirts, les programmes, les badges qu'on fait pour des artistes ou des événements, j'ai décidé de changer de vie. À l'âge de 30 ans, j'ai décidé de devenir comédien. C'était mon rêve d'enfant d'être comédien, et donc pour ce faire, je me suis inscrit dans un cours de théâtre. Et puis quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs et je leur ai parlé de mon projet d'écrire, raconter mes premières vacances à la neige, La Première Étoile. Et à partir de là, ma carrière a vraiment décollé. Voilà.
D'accord. Eh bien moi, je commence par une première question qui m'est primordiale. Je pense que vous y avez déjà en partie répondu, mais je pense que vous pouvez nous donner une réponse encore plus approfondie.
Oui.
Donc, pourquoi est-ce que vous avez voulu être réalisateur ?
Alors, au départ, moi, tout petit, je voulais être comédien. C'est-à-dire, voilà, j'aimais bien faire le clown, j'apprenais plein de sketchs de Coluche. Voilà, c'était mon rêve d'enfant. Et après, en arrivant, en grandissant, je vivais en banlieue, il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'était pas trop dans notre culture antillaise de devenir acteur, et puis même de façon générale, voilà, t'es en banlieue, on te parle pas beaucoup de ça, on te parle plus de devenir footballeur ou athlète ou des choses un petit peu toutes tracées, voilà, c'est-à-dire que, ou même de travailler dans la fonction publique et des choses comme ça. Et puis je savais que comédien c'était très difficile, et puis surtout je voyais pas beaucoup de comédiens noirs à la télé. Donc pour moi, je me disais c'est pas quelque chose pour un noir d'être comédien. Donc j'avais mis un peu ce rêve de côté, et c'est après où à un moment j'ai dit non, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut vivre ses rêves. Et donc comme je vous ai dit, je suis allé m'inscrire au cours de théâtre. Donc en fait, au départ, je voulais pas être réalisateur, moi c'était surtout comédien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué dans un film et j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui m'aimaient bien. Et là, ils m'ont dit, mais t'es bien comme comédien, tout ça, t'as des envies particulières. Et là, il est vrai que j'ai dit, oui, j'aimerais bien. C'était pas tant être réalisateur, c'était j'aimerais bien réaliser ou raconter mes premières vacances à la neige. Et là, j'ai eu la chance, ces personnes m'ont tendu la main et puis tout s'est mis en place rapidement. Il a fallu écrire le film parce que je suis aussi co-auteur de mes scénarios. Les scénarios, c'est le script, ce sont les textes dans lesquels il y a les dialogues, etc. du film. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler. C'était très difficile parce que je n'avais jamais rien réalisé, rien écrit. Donc, mais je suis tombé sur des gens qui avaient confiance en moi et qui pensaient que j'étais capable de le faire et qui me donnaient les moyens de le faire. Et surtout, quand je dis les moyens, ce sont des gens qui m'entourent. Donc, j'avais un conseiller technique. Et puis après, un film, deux films, trois films, quatre films. Maintenant, j'en suis à mon cinquième film. Voilà.
D'accord. Aussi, je voudrais vous demander, lorsque vous avez fait vos premiers films,
oui.
Est-ce que vraiment vous attendiez un tel succès ? C'est quand même une surprise.
Ah oui, pas du tout. Alors, il faut savoir que dans le cinéma, il n'y a pas de recette pour faire des succès. C'est-à-dire, personne ne sait. Sinon, tous les films marcheraient, tous les films feraient des millions d'entrées. Non, le seul truc qu'on peut faire au cinéma, c'est faire les choses avec son cœur, avec le plus de sincérité possible. Qu'on décide de faire un film commercial ou un film d'auteur plus intellectuel, etc., peut-être un peu moins distrayant, qu'importe, il faut y mettre tout son cœur. Et puis, le public, il est le seul juge. Le fameux mercredi, c'est le jour de sortie des films. Et là, y a une espèce de magie qui s'opère. Soit les gens ont tous envie d'aller voir le film, soit ça les intéresse pas. Alors c'est un petit peu c'est comme si on lançait des dés. Il faut le savoir. Il y a pas de recette. Il y a aucune garantie. Pourquoi il y a pas de garantie? Même si on sait que par exemple la comédie, les gens préfèrent aller voir des comédies. Ok, on sait qu'un film familial va plus fonctionner qu'un film de guerre ou des choses comme ça. Et donc même si vous prenez ces ingrédients-là, vous n'êtes pas sûr. C'est l'air du temps. J'imagine que vous, il y a plein de films que vous avez vus à la télé, que vous trouvez super, et vous n'êtes pas allé le voir. Vous n'êtes pas allé le voir au cinéma. C'est comme ça. On choisit et puis voilà. Donc il faut avoir un petit peu de chance. Voilà.
Et vous nous avez dit que le public est le seul juge.
Oui.
Et vous nous avez beaucoup parlé des entrées. Mais est-ce que c'est le seul facteur qui détermine si un film a eu du succès ou pas? Ou est-ce qu'il y a une question d'argent, de notes, de critiques, des choses
alors,
comme ça?
Je comprends ce que tu veux dire. Les entrées, les entrées ne donnent en rien la valeur du film. C'est-à-dire que vous pouvez faire un très beau film, qui soit très drôle ou très triste, un film magnifique, et le film ne marche pas. Ça, sont des choses qui arrivent. Après, quand ça marche, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la chance. Alors, ce qui est bien, il faut avoir, oui, tu as parlé des critiques, pour pouvoir continuer à faire des films, il faut avoir ou un succès critique, ou un succès au niveau du box-office, des entrées. Si on a les deux, c'est parfait. Mais il faut un de ces paramètres. C'est-à-dire que nous, on est des artistes, ce qu'on veut, c'est vivre de notre passion. C'est continuer à faire ce métier dont on rêve, parce que ce sont des métiers très difficiles. Donc, nous, il faut qu'on arrive à continuer. Il faut qu'on ait la confiance des producteurs, des gens qui donnent l'argent pour faire les films. Et pour ça, donc je reviens à ce que je disais, il faut soit que les médias, la presse, la télé reconnaissent la qualité du film, disent le film est magnifique, très bien joué, très belle lumière, très beau cadre, etc. Ou alors les spectateurs. Et c'est ce qui est paradoxal parfois. Vous, il y a des films que vous avez regardés, vous dites c'est nul, et pourtant il fait des millions d'entrées. Vous voyez, tous les goûts sont dans la nature, un petit peu. Donc on revient toujours à ce paramètre de chance un peu. Vous pouvez, j'insiste là-dessus, vous pouvez avoir de très bonnes critiques ou de très mauvaises, et le succès du film ne dépend pas de ça. Mais évidemment, il est préférable d'avoir des bonnes critiques pour donner une chance de réussite au film.
D'accord, alors excuse-moi, j'enchaîne sur une question hors sujet qui me vient comme ça, même si c'est pas mon tour normalement, parce que j'ai peur de l'oublier.
Vas-y.
C'est quoi cette famille, même si c'est pas un film que vous avez réalisé?
Non.
Votre rôle, c'est celui d'un père qui est très attaché à son travail.
Oui.
Et qui, au bout d'un moment, se retrouve déchiré entre vendre l'appartement.
Oui.
Et être fidèle à son fils. Donc, pour vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle-là pour vous présenter au casting?
Tout. Le questionnement sur la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, pendant longtemps, on disait la famille, c'est un papa, une maman, les enfants. C'est ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours, la famille traditionnelle. Mais il faut savoir, aujourd'hui, la définition de la famille, j'ai l'impression qu'elle est en mouvement. Il faut y réfléchir, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Moi, quand j'étais petit, par exemple, j'étais le seul enfant de divorcé dans ma classe. Et aujourd'hui, j'ai trois enfants. Eh bien, il y a plus d'enfants de divorcés que d'enfants qui vivent avec un papa, une maman, un truc entre guillemets qu'on pourrait dire normal. Donc vraiment j'étais intéressé par ce sujet, c'est ce qui m'a plu, c'est pas tant mon personnage, parce que j'avais pas le personnage principal, c'est vraiment de participer à un film qui interroge sur la famille. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'enfants qui commencent dans une configuration familiale traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman, lui, les frères et sœurs. Après, il arrive que les parents se séparent, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aiment plus l'enfant, que les parents ne s'aiment plus, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, on passe d'une famille, entre guillemets, normale, traditionnelle, papa, maman et les enfants. Souvent, il y a rupture, donc ils se retrouvent souvent dans une famille monoparentale, où on est chez papa, où on est chez maman. Et puis après, il y a une troisième étape, c'est que le papa et la maman séparés rencontre un nouvel amoureux, et là, l'enfant passe dans une troisième configuration, où là, c'est ce qu'on appelle la famille recomposée, c'est-à-dire qu'il va avoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, etc. Et il n'y a pas à juger, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, il faut que les parents soient suffisamment intelligents et arrivent à faire que l'enfant soit heureux, puisse s'épanouir, quelle que soit la configuration familiale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle type aujourd'hui. Les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Vous voyez, avant, les gens ne divorçaient pas, donc ils restaient ensemble et ça se tiraillait jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mort s'en suive, on pourrait dire. Et maintenant, bon, il y a des lois, voilà, on autorise, voilà, il faut aussi avoir la liberté de, si le couple ou la famille ne fonctionne plus, de se dire, voilà, ça marche plus, ça rend les enfants malheureux, il est peut-être préférable qu'on se sépare, etc. Et ce nouveau modèle n'est pas plus négatif que le précédent. Donc, voilà, j'avais envie de... Je m'intéressais à ça. C'est pour ça que j'ai accepté ce rôle.
D'accord, merci.
Vous nous avez dit, vous aimez beaucoup la comédie, que vous faites beaucoup, plein de fois, les pièces de Coluche. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de réaliser des films humoristiques ?
Oui, j'ai plutôt un naturel, ça doit me venir des Antilles, de la Martinique, plutôt joyeux, cool. Et voilà, j'ai toujours été entouré d'une famille joyeuse, avec mes frères et sœurs, on rigolait beaucoup, tout ça. Et c'est vrai que ma personnalité est plutôt, voilà, j'essaye toujours de mettre un peu d'humour dans mon quotidien avec mes enfants, voilà, ou avec mon entourage. Et il est vrai que en tant qu'artiste, vous savez, il y a des peintres, ils vont faire des tableaux très beaux, mais très sombres, etc. Peut-être avec une seule couleur. Et il y a d'autres peintres, ils vont mettre beaucoup de couleurs, des personnages plutôt joyeux. Voilà, c'est un choix artistique qui me ressemble. Voilà, je fais des films qui me ressemblent. Après, il est vrai que moi, j'essaye de prendre comme point de départ la comédie pour raconter des choses profondes et sérieuses. Parce que je pense qu'avec la comédie, on peut s'adresser au plus grand nombre, un plus grand nombre, et surtout les choses sont plus digestes. Voilà, sont arrivent plus facilement à l'oreille. Parce qu'à chaque fois, vous savez, la première étoile, par exemple, il y a des gens qui résument ça. Une famille de noirs qui part au ski. Ha ha ha, on rigole. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout un père qui essaye d'apporter du bonheur à ses enfants. Et il n'a pas d'argent. Donc c'est un film vraiment qui traite d'un vrai problème de société. Vous voyez, par exemple, Il a déjà tes yeux. Alors, au point de départ, c'est rigolo. Un couple de noirs qui adopte un enfant blanc. Ah, on n'a jamais vu ça, on rigole. Mais moi, surtout, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On leur donne un enfant, ils doivent aider cet enfant. Et ils s'en fichent qu'il soit noir, blanc, jaune, vert. On s'en fout. Quand on aime, quand on s'entend bien, peu importe la couleur du cheveu, peu importe la couleur des yeux, quand il y a de l'amour, eh bien, les gens doivent arriver à s'entendre. Donc, une fois de plus, sur un résumé de départ un petit peu rigolo comme ça, eh bien, je vais parler du racisme, de la différence, de l'immigration, de plein de sujets d'actualité. Voilà.
D'accord. Je voulais revenir sur la famille. Que pensez-vous d'une famille recomposée ou de l'adoption ?
Tout ça est très bien. Le seul truc, il faut que les gens soient heureux et équilibrés. Si on arrive dans une famille recomposée à être heureux et à porter de l'amour, à faire que l'enfant puisse aller à l'école, s'épanouir et devenir une femme ou un homme heureux dans la vie, pourquoi pas ? Puisque aujourd'hui, je vous ai dit, il n'y a pas de famille type. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à s'entendre. Ça ne sert à rien de rester en couple si tous les jours c'est la guerre, tous les jours c'est des cris, tous les jours il y a des enfants malheureux. Non, si eh bien on se sépare d'un être qu'on a aimé et qu'on va vers une situation plus équilibrée, plus harmonieuse, même si c'est, comme on dit, une famille recomposée, moi je dirais que ce n'est pas une famille recomposée, je dirais que c'est une nouvelle famille ou une autre famille, enfin bref. Et ce qu'il faut, voilà, c'est que les gens soient heureux. Et si la famille recomposée ne fonctionne pas, eh bien, il faut peut-être arrêter et revenir à un autre type de configuration.
Justement, si je reviens à ma première étoile, j'essaie de faire un lien avec Il a déjà tes yeux et justement oui. Ma première étoile. Donc, on peut se dire qu'en fait, vous utilisez l'humour justement pour éveiller les consciences, pour voir que justement, tout est possible.
Absolument. Voilà, c'est un très bon résumé. Maintenant, je vais garder ça comme phrase à l'avenir. Et j'essaye avec humour de d'éveiller les consciences. Voilà. Parler de...
Comment ?
J'essaye de... Donc, voilà, avec beaucoup d'humour, de parler peut-être de choses, des problèmes de société.
Bien à
à voir avec le film, c'est avez-vous une idole et si oui, qu'est-ce que vous aimez chez elle?
D'accord, alors moi j'ai beaucoup d'idoles, ça c'est mon problème, je n'ai jamais été fan absolu d'un individu ou d'un autre, j'ai beaucoup d'idoles, mais il y a des gens que j'aime parce que petits m'ont fait vibrer, par exemple j'ai beaucoup d'attachement pour quelqu'un comme Bob Marley. Pourquoi? Parce que il faut savoir, Bob Marley, c'était un petit gars qui a grandi en Jamaïque, qui a eu un père qui était absent. Il vivait dans la campagne et sur ce petit bout d'île là, il n'allait pas à l'école régulièrement. Il était métisse et il faut savoir que quand il était né, c'était très mal vu parce que en plus il connaissait pas son père, donc il y avait déjà des problèmes de racisme, voilà. Et ce petit gars, tout simplement, avec peu de culture, on va dire, il a commencé à apprendre la musique tranquillement, et puis il a commencé à comprendre, parce que il y avait une musique qui était sur l'île, mais qui n'était absolument pas du reggae, et il a commencé à prendre tout ça en compte, et il a créé le reggae, et cette musique a envahi la planète. Et surtout, il avait un discours de paix, c'était un humaniste, tous les textes, il faut que vous lisiez les textes de Bob Marley. Ces textes sont vraiment, pour la paix, pour l'entente entre les peuples, pour l'amour, voilà. Et ce petit bonhomme là, c'est pour moi, il a livré un message universel. Parce que je suis toujours impressionné par des gens qui au départ ont rien pour réussir et qui, par leur ténacité, par aussi un petit peu de chance, parce qu'il a été touché par la grâce, il a su mettre à profit son art pour délivrer un message de paix au monde. Et surtout, sa musique, là, il a réussi à en faire quelque chose d'universel. Et c'est pour ça, nous qui sommes des insulaires, donc qui sont nés sur des petits bouts d'îles comme ça, perdu au milieu des océans, eh bien, il ne faut pas qu'on croie que notre avenir ou nos ambitions sont limitées par nos rives. On peut aller très, très loin en partant d'un petit point comme ça qui a l'air anonyme, enfin un peu perdu comme ça. On peut rêver de grandeur et de choses très positives pour la planète, même en ayant grandi, eh bien, voilà, sur un tout petit bout d'île. Voilà, on n'a pas besoin d'être à Paris ou dans une grande capitale pour faire des choses importantes pour le monde, pour la planète. Voilà, c'est Bob Marley. Après, je pourrais en citer d'autres, mais Bob Marley, c'est vraiment Ja Love. Voilà.
Et tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez des enfants.
Oui.
Et en tout cas, nous voudrions savoir, est-ce qu'ils partagent la même passion pour le cinéma, la comédie, comme vous?
Alors j'ai un grand qui aime beaucoup le cinéma, qui a 17 ans, qui s'appelle Bilal, qui a envie de devenir réalisateur pour l'instant. Et j'ai deux petits qui, eux, embrassent la vie avec un bonheur fou. Et eux, pour l'instant, ils sont, et puis je les embête pas avec ça, ils sont dans aucune considération. Même si, bon, ils ont des idées de choses, ils ont envie de faire des choses, mais pour l'instant, pas dans le cinéma, que je sache. Il y a mon épouse qui est là, je vérifie. Non, hein. J'en ai un qui veut devenir livreur de pizza et ma sœur. Et la petite fille?
Elle veut s'amuser.
Et donc, il faut les laisser s'amuser et les rêves vont se construire tout doucement.
Et alors là, vous venez de nous dire que vous avez, que vous qui êtes de couleur foncée, vous êtes mariée avec quelqu'un de couleur claire. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé ou est-ce que quelqu'un un jour vous a dit quelque chose de stupidement stupide, je trouve, ouais, que ce mot-là pour décrire ça,
ouais,
à propos d'un mariage entre deux gens de couleurs différentes,
ouais.
Et est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé à faire le film Il a déjà tes yeux?
Non, ça a contribué, mais en fait, moi, c'est un long parcours. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de la couleur, moi, je suis né à la Martinique et je suis arrivé en France. Et moi, je me suis jamais dit que j'étais noir, parce qu'on ne se réveille pas le matin en se disant « je suis noir ». Mais il est vrai que vers l'âge de 6 ans, j'ai toujours été, peut-être comme toi, le seul noir de ma classe. Mais moi, je m'en moquais, quoi. On vivait pas en se disant t'es noir, t'es blanc. Et puis un jour, des petits enfants m'ont traité de bamboula, de noiro, de négro. Et je comprenais pas, moi, c'est quoi ça. Et donc, je suis rentré Et j'ai dit à ma mère, mais maman, je suis noire. Elle m'a dit, mais oui, je suis et j'ai regardé mes mains et j'ai eu une prise de conscience. J'ai dit, ah ouais, je suis noire. Et à partir de là, tac, il s'est mis un processus de réflexion. Et puis, tu sais, quand tu vis en France, ben, tout ce qui t'entoure fait référence au fait d'être blanc, quoi. Donc, les beaux cheveux, c'est blond, tout ça. Et du coup, depuis gamin, j'ai toujours eu cette réflexion. Un petit peu comme quand tu es une fille et tu sens que la société, elle est plutôt masculine, tu vois. On entend les garçons dire, ouais, plus tard, je serai le chef de famille. Et d'un seul coup, tu dis, bah, le chef de famille, ça peut être qu'un garçon. Alors que pas du tout. Il n'y a pas à avoir de chef de famille. C'est les deux, le papa et la maman ou le couple qui sont les chefs de famille. Et bien, il y a plein de choses comme ça qui s'inscrivent. Et toi, tu te dis, mais alors, je suis pas comme les autres. Et à partir de là, toute ma réflexion s'est mise en place par rapport à ça. Parce qu'au quotidien, j'étais confronté soit au racisme, soit à une image, à la différence. Donc, j'avais beaucoup de mal à m'identifier aux images que je voyais, tout ça. Donc, voilà. Donc, tout ça a construit ma pensée. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des films, eh bien, tu sais, quand tu es un artiste, ton art doit te servir aussi à exprimer eh bien, des interrogations, des doutes, des envies, des espoirs, tout ça. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans mon travail. C'est pas juste le fait que je sois marié avec une femme blanche. D'ailleurs, est-ce qu'elle est blanche, ma femme ? Ah oui, elle est blanche, ouais, t'as raison. Toi, j'avais pas fait attention. Mais plus sérieusement, voilà, j'ai mis ces réflexions dans mon travail. Et là, je pense que avec Il a déjà tes yeux, j'ai fait le tour de la question. Voilà, après ça, même s'il y a toujours des choses à dire, peut-être c'est vous qui les raconterez. Mais moi, j'ai fait le tour de la question. Et là, je viens de finir le tournage de la deuxième étoile. Et je ne parle absolument pas de la problématique raciale ou je suis pas là-dedans. Je parle de la famille. Je parle de la difficulté de se réunir en famille. Parce qu'aujourd'hui, avec les tablettes, les machins, tout ça, avec justement les familles recomposées, tout ça. Et puis, quand tu grandis, au départ, tu as ta famille, tes frères et sœurs. Et puis après, tu construis ta propre famille. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin en tout cas pour moi, j'ai une difficulté à réunir ma famille, à savoir qu'est-ce qu'est ma famille. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans ces interrogations-là. Voilà.
D'accord. Et aussi pour parler de Il a déjà tes yeux.
Oui.
Parce que c'est bien d'avoir aussi c'est bien d'avoir les critiques du public, de ceux qui regardent. Mais ce serait bien aussi de savoir votre opinion personnelle sur justement l'adoption. Qu'est-ce que vous pensez de l'adoption de Noirs avec un bébé blanc, puisque dans le film on voit bien que ça ne choque personne quand deux blancs adoptent un noir, et que là ça choque quand il y a deux noirs qui adoptent un blanc.
Voilà, si tu voulais, je voulais parler de cette question, qu'il y a des choses. Par exemple, quand des garçons disent ben moi je veux devenir conducteur de camion, ça choque personne. Et si une fille va dire ben moi j'aimerais bien conduire des camions, eh bien plein de gens vont lui dire mais non, mais c'est un truc pour les hommes, etc. C'est-à-dire que je réfléchis et je m'inscris contre le fait que on dise il y a des choses qui sont autorisées ou qui ne choquent pas par un type de population, et dès que c'est un autre type de population qui le fait, eh bien ça choque. Et moi je veux casser tout ça. J'ai envie de parler de ça parce que on ne doit pas se limiter. Nos rêves ne doivent pas être limités par les autres. Si demain tu veux devenir pilote d'avion, c'est pas parce qu'on va dire oui c'est une profession plutôt masculine que tu vas pas le faire. Tu dois essayer de vivre tes rêves contre la société elle-même s'il faut, contre plein de choses, peut-être parfois même contre tes parents, parce qu'il faut savoir que nos parents aussi ont des modèles pour nous, on nous voit comme ça, et peut-être que nous on voit les choses différemment. Donc c'est un petit peu tout ça. C'est pas que un film sur l'adoption, c'est un film qui parle de la différence, de la possibilité de vivre ses rêves, de s'autoriser à faire des choses que pourtant la société pourrait nous interdire. Donc si tu veux, cette situation que j'ai prise est un point de départ pour réfléchir à plein d'autres choses. Et principalement sur la différence. Moi, j'ai un credo, c'est-à-dire quelque chose auquel je crois très fort, c'est que la différence ne doit pas créer l'inégalité des chances. Voilà, sauf peut-être si t'es très petit pour le basket. Là, c'est un peu dur. mais sinon, dans la vie, il faut pas se dire je suis noir, je suis fille ou je suis blonde ou machin et je ne peux pas m'autoriser ça. Non, si t'as une envie, ah ben il faut y aller. Ça sera peut-être difficile, plus difficile, Et comme je dis dans le film, il y a toujours une première fois. Vous imaginez le premier homme qui a fait telle chose, le premier, ou la première femme. Vous savez, en France, par exemple, il faut le savoir, il y a 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Vous imaginez ça?
Oui.
C'est quand même incroyable. Et pourquoi? Parce que c'était des femmes. Donc, on considérait qu'elles étaient moins... Elles n'avaient pas le cerveau pour voter. Voilà. Eh bien, j'imagine la première femme qui a voté. C'est formidable. Et il faut toutes ces premières fois pour faire avancer les choses. Le film, il est plus là-dessus, sur cette différence qui ne doit pas créer l'inégalité des chances. Vous devez pouvoir aimer quelqu'un, même s'il ne vous ressemble pas. C'est votre cœur qui décide, ce n'est pas la société ou les concepts. Par exemple, aujourd'hui, il y a des blagues, des choses qui au début sont très rigolotes. On dit, ouais, elle est blonde, ouais, je suis blonde. Ça veut dire en fait que tu es un petit peu stupide ou bête. Eh bien, ce qui est malheureux, c'est que... Ah, il y a un exercice ? C'est ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que c'est devenu une expression. Ça veut dire, pour dire que t'es bête, bah, tu dis que t'es blonde. Et c'est terrible parce qu'il y a plein de jeunes filles blondes qui, à un moment, doivent se dire, ah ouais, je dois être un petit peu bête. Et tout ça, et bah, il faut lutter contre ça. Des choses qui sont rigolotes au début, eh bien, c'est ce qu'on appelle les clichés, les stéréotypes. C'est tout ce qu'on entend sur des individus, des gens. Et pourtant, toi, si t'es pas là-dedans, eh bien, tu subis quand même les conséquences de ça. Donc, c'est un film qui aide à réfléchir sur tout ça, au-delà de l'adoption. Après, c'est un film aussi sur l'adoption, donc sur la parentalité, sur qu'est-ce que c'est d'être parent aujourd'hui. Moi, le résumé de tout ça, c'est à partir du moment où vous y mettez de l'amour, où l'enfant est heureux, l'adoption voilà, doit être autorisée. Voilà, il y a énormément d'enfants qui souffrent et il faut que les structures permettent d'aider ces enfants. Voilà.
Attends, excuse-moi Malice, deux secondes, c'est juste pour dire un mot à nos auditeurs. Je suis désolée, il y a un petit bruit de fond, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc il est probable que vous n'entendiez pas très bien, donc nous excusons.
Bravo.
Et donc je continue, mais à part, à part votre film Ma deuxième étoile, comptez-vous faire un autre film?
Oui, je réfléchis déjà, j'aimerais bien faire un film qui se passe à la Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. J'ai envie de... Vous savez, parce qu'il y avait un homme politique, il avait dit que les Noirs n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Et j'ai envie de travailler là-dessus, parce que beaucoup de gens pensent que voilà, l'homme noir n'a pas participé à des grandes guerres, etc. Et ben moi, j'ai envie de dire qu'il faut savoir que des Martiniquais sont allés, ou des Antillais, qu'importe. Mais là, comme on est en Martinique, je suis Martiniquais, donc je vais rester précisément sur les Martiniquais. Il faut savoir qu'il y a énormément de Martiniquais qui sont partis en bateau se battre pour sauver la France. Ils sont allés, ils ont découvert le froid, la neige, et ils faisaient partie de ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Et il est important que vous sachiez que voilà, il y a des Martiniquais qui se sont battus pour la France, pour libérer la France aussi. Voilà. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans nos livres d'histoire.
Et
Excuse-moi.
Et je voulais rajouter aussi par rapport à ce que vous aviez dit il y a un petit moment. Je me demandais, pour savoir votre opinion, souvent dans les films, que ce soit des films policiers, fiction ou autre, en tout cas, moi, je remarque que le noir, enfin, la personne de couleur, elle a tendance à jouer le personnage comique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben, c'est un petit peu, je reviens un petit peu sur tout ce que je disais par rapport à mon cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, il a des codes. Et ce sont ces codes qu'il faut casser. C'est-à-dire que tu as raison, aujourd'hui, parce que le cinéma c'est une industrie, aujourd'hui quand il y a un noir au cinéma, eh bien on préfère lui donner des rôles comiques. Voilà. Et c'est contre tout ça qu'il faut pas se laisser enfermer là-dedans. Et donc, parce qu'il y a une imagerie un petit peu populaire depuis... depuis des Yabon Banania, voilà, on se sert de l'image du noir comme quelqu'un de toujours comique, souriant, etc. Et du coup, on a enfermé les personnages des comédiens noirs dans de la comédie. Mais on va travailler, et c'est en cela, c'est pour ça que je suis toujours très heureux quand je vois des jeunes qui prennent des initiatives, parce qu'il va falloir que, voilà, nous, on raconte nos histoires et pour sortir un petit peu de tous ces ce qu'on appelle des clichés ou de ces rôles stéréotypés. Voilà, c'est comme par exemple au cinéma, il faut aussi savoir que on mettra rarement une blonde, je dis n'importe quoi, prof de maths. parce qu'on va dire, mais non, la blonde, prof de maths, ça va faire rigoler, il faut plutôt, ou alors tu fais une comédie. Mais voilà, il y a des codes comme ça, où par exemple, le boucher, on va toujours prendre un bon gros gars comme ça, tu fais le boucher. Il faut essayer de casser tous ces codes, parce que le monde évolue, le monde change, et surtout pour pas enfermer le cinéma dans quelque chose, dans un ronron, où voilà, bon, ben, le méchant, c'est l'arabe, le rigolo, c'est le noir, et puis tu as l'homme blanc, voilà, bien équilibré, parfait. Il faut lutter contre toutes ces images, mais on y arrive, on y arrive.
D'accord, alors... À propos des films d'humour sur le racisme,
ouais.
Moi j'ai vu le film, j'ignore si vous l'avez vu, Bienvenue à Marly-Gaumont.
Oui.
Donc vous l'avez vu ?
Oui, oui, je l'ai vu, oui.
Donc qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, c'est très bien, c'est surtout que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Karimi, son papa qui a quitté l'Afrique et qui est allé s'installer dans un petit village. Et ben, voilà, les gens ne sont pas habitués, une fois de plus, c'est un film qui dénonce, justement qui est là pour casser les clichés, pour dire que tu peux être noir... donc tu peux être médecin et tu peux tout à fait te retrouver dans un petit village pour soigner des gens. Voilà, c'est un film qui fait avancer le schmilblick, pour dire, qui fait avancer la réflexion, le combat sur la différence, l'intolérance sur l'autre. Voilà, c'est très important qu'on ait des œuvres comme ça. Alors après, on a le droit d'aimer ou pas aimer le film, mais en tout cas, le point de départ, l'idée de départ est super positive parce que des enfants, ils vont voir ça. Voilà, ils vont se dire, bah oui, finalement, oui, je peux être noir, je peux être médecin, ou je peux être blanc, et accepter le fait d'être soigné par un médecin noir. Voilà, c'est la couleur ne fait pas tout. On ne peut pas limiter les gens à leur couleur. Et qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts, voilà. Hein.
D'accord.
Tu dis que vous êtes d'origine Martinique.
Oui, oui, je suis né à la Martinique, au Lamantin.
Okay.
Ça va, j'ai bon.
Oui. C'était pour vous demander quel est votre plat préféré de la Martinique.
Mon plat préféré à la Martinique. Alors moi, c'est, comme dirait, c'est proustien. C'est parce que vous connaissez tous Marcel Proust qui avait écrit un truc par rapport à une petite madeleine. Donc c'est pour ça, maintenant, quand il y a un goût qui nous rappelle quelque chose, on peut utiliser le mot de Proust pour dire que c'est proustien. Enfin bref. Et moi, ce sont les acras, les beignets de morue, parce que ça me rappelle toujours ma mère. Voilà, ma mère qui fait les acras divinement bien, les meilleurs du monde, au monde. Et quand je suis en France, et bien dès que je mange des acras, j'ai plein de souvenirs d'enfance, de réunions familiales. Et puis alors là, si on commence la liste, j'ai le pain au beurre aussi, parce que j'avais une marraine à Petit-Bourg qui tenait un petit commerce, et elle faisait des pains au beurre avec du chocolat avec pain au beurre. Mon Dieu. Et ça, voilà, pareil, ça me ramène à des souvenirs d'enfance, à tout ça. Et comme en France hexagonale, en métropole, là-bas, j'utilise les trois mots pour qualifier la France, mais bref, on n'a pas souvent l'occasion de avoir des repas antillais. Donc, dès que j'ai l'occasion de boire du chocolat pain au beurre, oh, c'est tout de suite les souvenirs, l'enfance, tout ça. Donc, voilà un petit peu mes plats. Après, j'en ai plein, mais c'est surtout... les acras et le pain au beurre, parce que d'un seul coup, je me retrouve en enfance.
Ça vous redonne le sourire.
Oui, et puis ça me rappelle mon île, et puis tout ça, parce que tu sais, moi j'ai jamais choisi de pris la décision de venir vivre en France, et en banlieue, à Paris, tout ça, et j'ai toujours un petit goût de... Qu'est-ce qui serait passé si j'étais resté à la Martinique ? Et ça, malheureusement, j'ai pas décidé. Donc c'est pour ça, maintenant, dans ma vie, j'essaye de décider là où je dois aller. Je me laisse pas imposer par qui que ce soit, parce que quand même, on a pris une drôle de décision. Même si la plus grande décision qu'on ne contrôle pas, c'est la décision de venir sur Terre. Mais bon, on est là maintenant, on fait avec, on s'éclate.
On en mange encore du pain au beurre.
Ah ouais.
Alors, je vais vous poser une question que j'ai jamais posée.
Vas-y.
Vous allez vous dire, mais d'où est-ce qu'elle sort cette question, tout sauf professionnelle ?
Eh ben, t'as déjà répondu.
Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez une peluche, un doudou ?
Oui, ouais, j'avais un nounours. Oh, mais ce nounours, ah là là, il était usé, mais je l'adorais. Et puis moi, je suçais beaucoup, deux doigts. Tu vois, j'avais mon nounours et deux doigts. Tac, et c'était mes tétines. C'était, voilà, tu vois, c'était vraiment... Et c'était bon. Et un jour, j'étais triste parce que mes deux doigts ont perdu leur goût. Ils étaient devenus durs. Enfin bref, donc ça. Et puis le nounours, il était tellement usé qu'un jour, ma mère l'a jeté. Et elle m'en a donné un autre, mais ça n'allait pas parce qu'il était rêche. Et puis, ça a été la fin des doudous, des doigts dans la bouche, tout ça. Je ne suçais pas le pouce, moi, c'était deux doigts. Mon frère suçait son pouce. Mais que de souvenirs, ouais. Ouais, j'avais un doudou. Mais c'est important, hein, parce que tu sais, moi, je me souviens, j'étais assez peureux et mon nounours, c'était très important pour moi. Vraiment, c'était... Et maintenant, j'ai des enfants et leur doudou, là, je comprends. Quand il n'y a pas le doudou, quand ils perdent le doudou, tu as intérêt de le retrouver parce que c'est vraiment un déchirement, quoi. Voilà.
Oui, tu ne veux pas me prêter ton doudou ?
Voilà.
Vas-y.
Oui, il y avait une question que je me demandais par rapport à « Il a déjà tes yeux mm-hmm. ». L'assistante sociale... est-ce qu'elle voulait, elle aimait pas le fait que ce soit des Noirs qui adoptent le bébé Benjamin, mmh. ou est-ce que c'est juste qu'elle voulait le bien du bébé, ou c'est juste parce qu'elle était raciste en fait?
Alors c'est un petit peu tout à la fois. Au départ, alors la première chose pour moi, elle n'est pas raciste. Elle est comme beaucoup de gens qui face à une situation qui n'est jamais arrivée se posent des questions. C'est-à-dire qu'on est habitué à, mettons, je sais pas, je reprends cet exemple, tous les matins,
ils ont peur du changement.
Voilà, ils ont peur du changement ou de la nouveauté. Ou imagine, je sais pas, tous les matins, t'as un gars qui vous emmène en bus, c'est le chauffeur du bus. Le gars, il a, je sais pas, 40, 45 ans, ça fait 20 ans qu'il fait ça, il conduit son bus, il vous emmène à l'école, il n'y a jamais eu de problème. Puis d'un seul coup, là, vous voyez un jeune gars de 20 ans avec des dreads. Et là, vous allez dire, non, on veut pas.
Alors, touche pas à mon bus.
Voilà. Et peut-être que vous allez avoir plein de réflexes de dire, non, on veut pas de mecs avec les dreads, les machins, tout ça. Peut-être vos parents, ils vont dire, on veut pas de rasta parce qu'ils fument. Voilà, ils vont partir dans des clichés. Et en fait, ça se trouve, le mec, 20 ans, il conduit très bien, il y a aucun problème, etc. Mais on a peur parfois de la nouveauté ou des clichés. Donc, la deuxième partie de la réponse, c'est que elle est comme beaucoup de gens. Elle se dit, mais ça peut pas marcher parce que ça n'est jamais arrivé. Vous savez, il y a une époque, il y avait Harry Roselmack, vous voyez qui c'est ? C'était le premier présentateur du journal de 20 heures. Donc, on a toujours eu des présentateurs de journaux de 20 heures blancs. Et un jour, Harry Roselmack, un présentateur noir. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a eu comme commentaires, comme machin, comme scandale, comme gens choqués, comme gens... Après, il y avait aussi des gens qui trouvaient ça formidable. Mais une polémique, tout simplement... Parce que le gars, il est noir, il va présenter le journal de 20 heures. Mais c'était hallucinant. Et je l'ai rencontré, on a longuement parlé de ça. Alors lui, il était malheureux. Et il me disait, vous rendez compte, il y a même dans des journaux, les gens ont dit, Harry Roselmack a présenté le journal de 20 heures dans un français parfait. Ça veut dire qu'il supposait que le gars aurait pu ne pas bien parler. À partir du moment où on te dit tu présentes le journal de 20h, c'était une certaine présence, une certaine culture, une certaine... Voilà, tu as fait une école de journaliste, tu sais présenter un journal. Mais voilà, parce que c'était le premier noir, alors on se posait plein de questions. Donc c'est elle l'est, pour moi, comme plein de gens qui, face à la nouveauté, est inquiète. Après, effectivement, elle dit c'est dans l'intérêt de l'enfant. Mais ça, tout est fait dans l'intérêt des enfants. Vous savez, je sais plus ce qu'on dit, le chemin, je sais pas quoi, est semé de bonnes intentions ou bref. Les gens, du fait de la peur, les gens se replient sur des choses qui, voilà, en pleine sécurité, tu vois, ils disent bon ben là on connaît, donc c'est pas risqué, voilà. Et c'est un petit peu, voilà, elle est comme beaucoup de gens. Je voulais un personnage comme ça qui, comme beaucoup de gens, face à une situation nouvelle, s'inquiète. Et effectivement. Au départ, c'est de l'inquiétude, mais cette inquiétude peut se transformer en racisme, en vraiment en quelque chose de très grave. Pardon. Donc, au départ, le racisme part d'un sentiment de peur, peur de l'autre, peur de la nouveauté. Et puis après, si on fait pas attention, ça se développe. Et là, on est dans la haine, dans le racisme et tout ça. Mais je voulais que ce personnage, voilà. Et après, je le rachète à la fin parce qu'elle dit, oui, c'est vrai, excusez-moi, c'était la première fois. Elle a eu peur parce que on est dans une société où on nous fait peur pour beaucoup de choses et il faut à un moment se poser, analyser, réfléchir avant de rentrer dans un sentiment de peur.
Donc est-ce que vous pensez que justement les préjugés sont nés du changement, en tout cas pas généralement mais certains la majorité des préjugés qui se font sur...
Oui, oui, oui.
Que ce soit sont ça liés. Se fait par rapport à des changements qu'il y a dans la vie de tous les jours.
Oui, les vous savez, préjugés, tout est dit dans ce mot, préjugés. C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne et parce que tu vois d'elle à l'extérieur, tu te fais déjà un jugement, une idée d'elle. Alors que voilà, et donc tous les groupes d'humains, de personnes... on les définit, c'est-à-dire qu'on a un jugement. Alors, et malheureusement, si on te dit les blondes, elles sont bêtes, hein, comme ça, tu voilà, ben tu vas voir une blonde arriver, tu as ce préjugé. Et en plus, ces choses-là sont parfois entretenues dans les médias, à la télé. On vous montre toujours la blonde, ou on va vous montrer des homosexuels qui sont toujours qui font les folles, etc. Alors que c'est pas tous les homosexuels qui sont comme ça. Donc c'est tous ces préjugés. Il faut faire attention à ça. Faites-vous votre idée. Attendez de parler avec la personne. Échangeons, discutons. Ne nous laissons pas envahir par les préjugés.
Comme on dit, on ne juge pas sans connaître.
Voilà, absolument, absolument.
Et il me semble, un soir de cette semaine, je ne m'en rappelle plus, sur TF1, on a vu la série Munch.
Ouais.
Mais pour certaines personnes, comme moi, on n'a pas pu regarder. Donc, on aimerait vous demander, quel est votre rôle dans cette série ?
Alors, je suis l'associé de... Alors, la série Munch, c'est une série, ce qu'on appelle une série d'avocats, sur les avocats. Le rôle principal est tenu par Isabelle Nanty, que peut-être vous avez vu dans Les Tuches, les choses comme ça. C'est une super comédienne. Et moi, dans le film, je suis son associé. Voilà, on tient tous les deux un cabinet qui s'appelle Munchowski et Bélanger. Et moi, je suis Hubert Bélanger. J'ai 50 ans, j'ai une fille et je suis un avocat d'affaires. Voilà. Et parallèlement à ça, je suis aussi homosexuel.
Oui.
Voilà, c'est une façon. Et vous avez vu, enfin pour ceux qui l'ont vu, je n'ai pas de plume rose dans la tête, je n'ai pas de voilà, parce que je pense que pour le meilleur moyen pour défendre un truc, bah, c'est de montrer que voilà, on sortir des fameux clichés.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et je reviens sur Elle a déjà tes yeux. Mm-hmm. Moi, j'ai une réplique que j'aime beaucoup.
Oui.
C'était justement une discussion entre. L'assistante sociale et son mari.
Mmh.
L'assistante sociale était énervée, elle lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que je te parle ?» Et il lui a répondu « Parce que je suis blanc.
» Oui.
Est-ce que c'est vous qui l'avez imaginé ?
Oui, 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 c'est moi qui ai écrit ça. Tu sais, dans la première étoile, n'oublie pas ta question, hein. Dans la première étoile, il y a un moment, bonne maman, elle va, Firmin Richard, elle va au commissariat. Le policier lui dit « Mais bon, le gars que vous cherchez, etc. » elle dit elle doit le décrire, bah, il était habillé doudoune noir, pantalon noir, et le policier dit ah bah c'est pas gagné. Et alors Firmin lui dit mais comment ça c'est pas gagné? Elle lui dit bah, parce que un noir en noir dans la nuit ça va être c'est plus difficile à retrouver qu'un blanc en blanc le jour. Et là bonne maman répond sauf si votre blanc est dans la neige, monsieur. Voilà, c'est-à-dire que... Et pour revenir à ta question, voilà, j'aime bien faire des pirouettes, inverser les codes, inverser les choses, quoi. C'est un de mes plaisirs. Et donc, elle, elle dit... voilà, enfin, elle pose la question, je ne sais même pas pourquoi je te parle, et lui, il dit, bah, parce que je suis blanc. Voilà, c'est-à-dire qu'il lui renvoie la balle, comme on dit, sur son questionnement sur le racisme, quoi. Parce que si elle n'est pas prête à accepter que des Noirs... adopte un blanc, donc pour elle, elle ne peut parler qu'à des blancs. Voilà, j'espère avoir été claire.
Non, ouais. Merci.
Justement, vous nous avez parlé des homosexuels. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de l'homophobie ?
Ah, c'est pas bien.
c'est pas bien,
mais pour aller plus loin, une fois de plus, c'est que tous ces gens agissent avec un sentiment de peur. Pourquoi vous avez peur des homosexuels ? Pourquoi vous savez, quand on commence à crier sur quelqu'un, à juger quelqu'un, c'est parce qu'il y a un truc comme une gêne, comme une peur. On se dit, ah là là, il va changer des choses, ou c'est pas bon, ou on a peur. On dit souvent, ah non, me touche pas, machin. Mais donc, ça part d'un sentiment de peur. Et la peur, elle a différentes origines. C'est l'inculture, c'est la fermeture d'esprit. Voilà, et c'est pour ça, il faut continuer à apprendre, à voyager, à partager, à lire, à même regarder des documentaires à la télé, voilà, pour s'ouvrir l'esprit, pour comprendre que finalement il y a des homosexuels, ils sont homosexuels, voilà, et ce sont des gens qui ont un cœur qui bat, qui sont prêts à aimer l'autre, quel qu'il soit, etc. Et qu'on peut vivre ensemble. C'est la fameuse question du vivre ensemble. Et donc voilà, donc le problème de l'homophobie, c'est lié au problème du sexisme, du racisme. C'est toujours lié à cette question de différence. Vous savez, il y a des gens qui ont essayé de fixer les identités ou de fixer les populations, qui ont dit, voilà, l'homme, il doit être comme ça. Vous vous souvenez, je pense, de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, lui, il avait voulu développer la race aryenne. Et pour lui, la race aryenne, c'était que tout le monde soit blond, aux yeux bleus. Mais le gars, déjà, lui, il était brun.
et
voilà. Et vous voyez, bah, ces gens ont tué des millions de gens. Mais il faut pas que des choses comme ça se reproduisent, même si aujourd'hui il y a des guerres qui continuent, toujours liées à la différence, la peur de l'autre. On se dit, mais l'autre, il va m'apporter des problèmes, alors que pas du tout, et pas toujours. Il faut discuter. Et c'est pas parce qu'il est différent, forcément, qu'il t'apporte des problèmes. Tu peux être différent. Vous savez, moi je dis toujours avec ma femme, on n'a pas les mêmes goûts. Si on avait les mêmes goûts, on serait pas ensemble. Parce que voilà. Moi, je l'aime comme elle est, elle m'aime comme je suis, et on se ressemble pas. Demain, vous allez avoir un petit copain, il vous ressemble pas. Voilà, il faut quand le cœur bat, eh ben, il faut laisser aller ses sentiments, et voilà. Et il faut essayer de s'ouvrir l'esprit pour ne pas avoir peur à chaque fois de la moindre différence de l'autre, hein. Parce que en plus, le monde, vous le voyez, il évolue en permanence, et il faut savoir que nous, les Antilles, on est un monde aussi de demain. La créolité, c'est tous ces mélanges, des noirs, des blancs, des indiens, des voilà, tout ça, ça fait un pays, ça fait le créole, ça fait une langue commune, ça fait des couleurs, ça fait la diversité, et on doit arriver à vivre ensemble. Et le monde, il bouge comme ça, les populations, elles bougent. J'aime toujours donner cet exemple. Vous savez, il y a des millions d'années, ou je sais pas combien, les professeurs corrigeront, de nombreuses années, on vivait tous dans des grottes. On était comme ça, enfermés là-dedans. Ah ben, un jour, il y en a un, il a dit, moi, je sors, je vais voir ce qui se passe à l'extérieur. Et les populations commençaient à bouger comme ça. Et imaginez si on était tous restés dans notre petite grotte, ben voilà, on serait encore là à avoir peur du soleil qui se lève, à avoir peur de la pluie qui mouille, à avoir peur d'un lion qui fait ah comme ça. Ben voilà, on est sortis, des populations se sont rencontrées, se sont mélangées, se sont voilà, et puis on a découvert le monde, et puis on a avancé ensemble. Il y a eu des inventions par un, des inventions par d'autres. On réfléchit ensemble. Voilà, c'est tout ça. Il faut accepter le mouvement. Après, évidemment, ça pose des problèmes, mais on peut en parler en toute sérénité et avec paix et j'espère avec amour.
Alors, je vais vous poser une question sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. Mm-hmm. On n'en parle plus trop maintenant, même si au moment-là, ça a fait quand même un gros scandale, mm-hmm. d'après les gens que j'ai interrogés. Le président des États-Unis mm-hmm. et Donald Trump.
Oui.
Alors, moi, j'entends dire souvent qu'il pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que c'est vrai?
Alors, potentiellement, il pourrait, mais c'est pas aussi simple, parce que c'est pas des choses qui est dans son propre ressort. C'est-à-dire qu'avant de déclencher une guerre comme ça, déjà, il faut trouver les gens pour se battre avec. Bon, il suffirait d'envoyer une bombe et attaquer, mais on croit que l'image, c'est hop, j'appuie sur un bouton, boum, ça part. Non, il y a quand même, dans tous les pays démocratiques, hein, où la population vote, etc., où, voilà, il y a des votes qui se font. Donc, il faut savoir qu'il y a une opposition aussi. Il y a des gens, voilà, comme à l'Assemblée nationale, il y a des gens de droite, de gauche, du centre, qui prennent les décisions. C'est-à-dire que le président va dire, bon, ben, moi, je veux faire la guerre. Eh bien, faut qu'il demande. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Faut qu'il demande, donc, aux députés, etc., au Sénat. C'est très compliqué avant qu'ils disent. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas demain qu'on va recevoir une bombe sur la tête. Maintenant, il y a une chose, il faut savoir que nous, on a de la chance. On vit quand même dans un monde de paix, globalement, même s'il y a du terrorisme et tout ça, il y en a toujours eu et c'est pas simple et il faut se battre pour régler ces problèmes. Et quand je parle d'essayer de régler ces problèmes liés à la différence, c'est lutter contre tout ça. Quand je fais un film où des couples de noirs adoptent un enfant blanc, c'est aussi une façon de lutter avec tout ça. Vous êtes jeune, il va falloir aussi travailler sur tout ça. Serrer la main à l'autre, être sympa avec son voisin de classe, c'est aussi travailler pour la paix dans le monde. Mais maintenant, j'aimerais quand même vous dire que, voilà, on a de la chance. On vit dans nous, là, Martiniquais, Français, certains en Europe, on vit dans un monde de paix. Mais il faut savoir que on peut pas se reposer sur nos lauriers parce qu'aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, eh bien, il y a des millions d'enfants qui subissent la guerre, des millions d'enfants qui travaillent dans des mines, des millions d'enfants qui ont des problèmes pour se nourrir. Donc si tu veux, avant même d'aller parler de Troisième Guerre mondiale, etc., il y a aujourd'hui quand même des problèmes qui sont pour moi parfois même pires que la guerre, parce que la guerre, on a l'impression que c'est un truc officiel, tout ça. Il y a des choses qui font énormément de mal, et il faut qu'on ait conscience de ça aussi, pas que de la notion d'une grande guerre, machin, tout ça. Il faut travailler là-dessus aussi, quoi, pour que bah voilà, tout s'équilibre et qu'on arrive enfin à ce que tout le monde soit en paix. On peut pas juste penser dans notre petit coin. Voilà. Mais déjà être sympa avec son voisin, c'est déjà faire avancer le schmilblick, parce que voilà, vous êtes l'avenir et vous allez être en mouvement. Certains vont quitter l'île, d'autres vont y rester, et à travers vos voyages, à travers vos rencontres, eh bien vous allez, j'espère, porter ce message de paix. Et ce qui est plus terrible, moi, vraiment sur cette planète, c'est le problème avec les enfants, parce que les enfants ils peuvent pas se défendre. Je vais pas développer tout ça, mais c'est pour ça on a tous une grande responsabilité par rapport aux enfants. Et c'est pour ça qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts. Quand il y a des gens qui apportent de l'amour à un enfant, il faut les aider. Voilà.
D'accord. Et si je reviens sur votre métier, mm-hmm. vous avez fait des doublages, des acteurs de doublage.
Ouais, des doublages.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités pour y parvenir ?
Ben, c'est toujours pareil, il faut être comédien. Il est toujours préférable, il faut être un bon comédien. C'est-à-dire qu'un comédien, aujourd'hui, il doit savoir tout faire, du théâtre, du cinéma, jouer dans des téléfilms, faire du doublage, faire des voix de commentaires radio ou des commentaires de documentaires. Et être comédien et faire du doublage, ça fait aussi partie de la palette du comédien.
Et combien de doublages avez-vous fait à votre actif ?
Oh là là, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. J'ai fait beaucoup, beaucoup de films. Alors les mecs un peu connus que j'ai doublés, c'est surtout Martin Lawrence, c'est Big Mama. Vous avez déjà vu ça, les Big Mama.
Oui.
Vous avez déjà vu ça ou pas?
Oui.
Oui, Martin Lawrence. Moi, j'ai beaucoup doublé Martin Lawrence et je faisais la voix de Big Mama. Et voilà.
C'est trop bien.
Voilà. Et après, j'ai doublé Will Smith 3 fois. Habituellement, c'est Greg Germain qui le double. Et qui est un monsieur de la Guadeloupe, un de nos grands comédiens. Et quand il ne peut pas le faire, c'est moi. Donc j'ai eu la chance de faire Will Smith. Mais est-ce que vous avez connu Cousin Skeeter? Ça vous dit rien? C'était une petite marionnette.
Oui, qui parlait comme ça, Bobby, Bobby.
Oui, ça me dit quelque chose maintenant.
Je faisais la voix aussi de Cousin Skeeter, voilà. Et c'est vrai qu'au début, j'en ai fait beaucoup. Et puis avec le cinéma qui est arrivé, etc., etc., j'en fais de moins en moins. Mais j'aime beaucoup ça et il faut être bon comédien. Parce que quand vous avez un acteur américain qui fait une sublime scène et que lui, il a pu la répéter pendant des semaines et des semaines, vous arrivez dans le plateau, dans le studio, eh bien vous avez beaucoup moins de temps pour rejouer la scène. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, pour être complet sur la réponse, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour faire du doublage, bon hop, tu peux être, je sais pas, non, non. L'idéal pour faire du doublage, c'est d'avoir une bonne formation de comédien. Voilà.
Et pour terminer, pouvez-vous nous faire entendre quelques voix célèbres ?
Ah non, non, tu sais, ça se fait un peu... Non, je vous ai fait Big Mama, venez te voir. Je vais vous faire Cousin Skeeter.
Hey Bobby, qu'est-ce que tu fais ?
Voilà, mais en fait, moi, je fais beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire, il faut que j'entende la voix du gars en anglais. Par exemple, Will Smith, il a une voix très, très grave. « Yeah, you know my man, the guy, come. » Et si je le faisais en français, je ferais « Alors mec, t'arrives d'où ?» et tout ça. Tu vois, je module en fonction. Et il y en a un autre qui s'appelle Chris Rock. Vous voyez qui c'est, Chris Rock? Et lui, il est très perché, il a une voix très haute. Il fait, yeah, you know the guy coming to tell me what I'm saying. Et moi, en français, donc ça fait, alors le mec, il vient, il me dit... Voilà, je module ma voix en fonction de la personne que j'ai à doubler. Voilà.
D'accord. Eh bien, merci, monsieur Jean-Baptiste, de nous avoir parlé et appris autant de choses sur vous et sur le cinéma. C'était un vrai plaisir pour nous et pour nos auditeurs. Et moi-même, j'aurais jamais cru que le monde du cinéma, ce serait aussi... que ce serait un métier aussi élaboré. Mm-hmm. Et vous, mes chers camarades, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ?
C'était très drôle.
Moi, j'étais très contente parce que personnellement, Lucien Jean-Baptiste, vous d'ailleurs, Monsieur Jean-Baptiste, moi, je vous ai vu dans des films.
Ouais.
Et je ne pensais pas pouvoir un jour vous parler en vrai. Vous nous avez dit beaucoup de choses aussi sur le métier d'acteur.
Mm-hmm.
Donc, merci beaucoup. Je suis très honorée.
Ah ben, moi aussi.
Et bien, moi, ça m'a vraiment beaucoup amusé que vous fassiez la voix de Big Mama.
Ah ouais. Mais Big Mama va revenir bientôt.
Eh bien, merci encore et on se retrouve dans une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir. Et je vous dis bravo. Bravo. Yo, bravo.